Au fil des pages.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Jean-Louis Harouel, économiste et juriste, professeur à l'université Panthéon-Assas, plusieurs fois lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques, et auteur d'une anthologie toute récente à propos de Jean Forastier, des œuvres de Jean Forastier qui s'intitule « Productivité et richesse des nations ». Jean-Louis Harouel, bonjour.
Bonjour Priscille.
Bonjour, vous avez écrit d'autres ouvrages comme L'essai sur l'inégalité en 1984, Culture et contre-culture en 1994. Ceci est votre première anthologie ?
Ceci est ma première anthologie. Alors, Culture et contre-culture, Jean Forastier n'a pas pu connaître ce livre, mais Essai sur l'inégalité, il l'avait connu et il l'avait énormément apprécié, d'autant qu'il avait pu constater combien Essai sur l'inégalité était appuyé sur sa pensée et essayait d'utiliser mon regard d'historien des institutions du droit et de la société et de l'économie, bien sûr, au service de sa pensée.
Donc, nous comprenons immédiatement que vous avez bien connu Jean Forastier, que vous l'avez fréquenté. Est-ce que vous avez découvert son œuvre ?
Je suis né en 1944, donc j'avais 20 ans en 1964, et en ce temps-là, on ne pouvait pas ne pas rencontrer le nom de Jean Forastier très vite, très tôt. Les sujets de philosophie, par exemple, au baccalauréat, dans les sections scientifiques, et c'était mon cas, je n'ai pas eu un texte de Jean Forastier, mais c'était courant qu'on ait à commenter que pensez-vous de la pensée de tel jugement ou de tel texte du grand philosophe Jean Forastier. Jean Forastier était vraiment partout, omniprésent. Je l'ai découvert dans ses livres d'abord.
Présenté comme philosophe alors.
Il était présenté comme philosophe. Il est aussi philosophe. Il est un peu tout, Jean Forastier. Il est protéiforme. Vous savez qu'il est d'abord ingénieur de l'école centrale.
Ouais.
Mais que, parallèlement, il est juriste. Il suit les enseignements de la faculté de droit de Paris. Et alors, chose qui va nous relier encore ici, ce qu'il apprécie le plus dans l'enseignement juridique, c'est l'histoire du droit. L'histoire du droit qui lui paraît être une dimension indispensable, essentielle pour la compréhension du monde, de la société et de la civilisation. Il est très complet, Jean Forastier, et il est philosophe des sciences. Il consacre des années de sa vie à comprendre la méthode scientifique, à définir la méthode scientifique. Il s'interroge sur l'éthique. Il va publier en 1965 Essai de morale prospective. Il s'interroge, il veut comprendre, il est philosophe des sciences naturelles, de la physiologie, de la neurologie, il veut comprendre le fonctionnement du cerveau, etc. Et en ce faisant d'ailleurs, il rejoint ses intuitions premières. Il explique que l'un des tableaux qui est emblématique de son œuvre, parce qu'il est également un immense connaisseur et un homme immensément cultivé dans le domaine de la musique, dans le domaine de la littérature. Les vers coulaient de sa bouche avec une facilité stupéfiante. Et dans le domaine de la peinture et de la sculpture, et parmi les œuvres, il a quatre œuvres emblématiques auxquelles il se réfère, l'amour sacré et l'amour profane du Titien, les obsèques du comte d'Orgaz, la jonte des Philippines de Goya et le grand Christ de Moissac. Et il explique qu'il a compris tardivement que ce qu'il appelait la raison et l'instinct, c'était le paléocéphale, donc à propos de ce tableau du Titien qu'il aimait tant.
Et donc Jean Forastier était économiste, entre autres, finalement.
Oui, il était économiste, mais en économie, il a forgé une théorie économique sans avoir suivi les enseignements universitaires de l'économie.
Alors pour revenir à vos parcours parallèles, on peut dire entre vous, Jean-Louis Harouel et Jean Forastier, vous vous êtes donc retrouvé un jour élève de Jean Forastier. Comment ça s'est passé? À quelle occasion?
Bien, à l'école, à l'Institut d'études politiques de Paris, durant l'année 1963-1964, j'ai suivi son enseignement et là-dessus, je me suis retrouvé également lotois très peu de temps après et j'ai retrouvé Jean Forastier et sa famille dans le Lot, j'étais à quelques kilomètres de Douelle et j'ai mieux connu Jean Forastier, indépendamment des rapports universitaires que nous eûmes, j'ai mieux connu Jean Forastier à l'occasion d'une une anecdote que je serais heureux de citer. Okay. C'est que Jean Fourastier était un professeur pas comme les autres. Un professeur d'économie pas comme les autres, et cela se marquait de mille manières, par son sens du concret. Par exemple, au Conservatoire des Arts et Métiers, il demandait à son assistante Anne Reverdy d'apporter une ampoule électrique, une chambre à air, un corps de chasse, et il faisait son cours à partir de ces objets hétéroclites, qui chacun était emblématique d'un comportement dépris. Eh bien, il avait également des rapports avec ses étudiants qui étaient des rapports extrêmement ouverts, généreux, spontanés et curieux. C'est-à-dire que tous les ans à Sciences Po, il invitait ceux qui voulaient, un petit groupe d'étudiants, à venir passer une soirée chez lui, rue César Franck. Et c'est à l'occasion d'une de ces invitations que je suis venu chez Jean Fourastier, dans l'hiver 1963-1964. J'habitais à l'époque assez loin de Paris, à Chantilly. J'ai laissé passer l'heure de mon train et Madame Fourastier m'a gardé à dormir. Et le lendemain matin, elle était près de moi au petit déjeuner. Nous avons parlé de Zulma Caro, de Balzac et de Zulma Caro. Zulma Caro, dont elle-même avait utilisé les œuvres avec son mari, car elle avait coécrit avec lui plusieurs livres, et en particulier ce livre auquel tous deux tenaient tant, Les écrivains témoins du peuple.
Est-ce que vous avez aussi mené des travaux de recherche avec Jean Fourastier? Si oui, sur quel thème?
J'avais commencé un mémoire de l'école pratique des hautes études qui ne s'est jamais terminé sur, il m'avait suggéré de travailler sur l'ouvrage de Napoléon III, l'extinction du paupérisme. Bon, ça, je ne l'ai jamais fait. Alors, je ne dirais pas que j'ai travaillé avec Jean Fourastier, mais j'ai travaillé, en liaison, je dirais que je travaillais en liaison avec Jean Fourastier sur plusieurs points. D'abord, en 1973, j'avais publié chez Attier une petite présentation synthétique de sa pensée dans la collection Au profil d'une œuvre. À l'époque, l'œuvre en question, c'était les 40 000 heures. Et déjà, de ce fait, c'était un tout petit peu une ébauche de ce qu'a été cette anthologie. Et puis, bon, laissé sur l'inégalité, il en avait lu le manuscrit. Il l'avait, à l'époque, je lui avais, bien avant de contacter un éditeur, communiqué le manuscrit. Il l'avait lu, il m'avait exprimé son intérêt, son désir que ce livre fût publié. Et puis, j'ai publié également en histoire économique des articles universitaires consacrés aux politiques administratives de déréglementation en matière de céréales à la fin de l'Ancien Régime en France. Et dans ces articles, il y en a plusieurs, j'ai évidemment beaucoup utilisé l'œuvre de Fourastier, et il a connu ces articles.
Donc vous-même, vous êtes juriste, économiste, enseignant d'ailleurs du droit et de l'économie. L'idée de faire une anthologie des œuvres de Jean Fourastier est venue à quel moment, en quelles circonstances?
Eh bien, je dois dire que l'idée de faire une anthologie des œuvres de Jean Fourastier n'est pas mon idée. Elle est l'idée du comité Jean Fourastier, dont je suis membre. Et le comité Jean Fourastier a bien voulu me choisir pour procéder à ce travail. Et cela a duré plusieurs années. Donc c'est l'idée du comité. J'avais toujours eu l'intention d'écrire quelque chose un jour sur Jean Fourastier. Mais cette anthologie, je dirais que c'est l'idée du comité.
Et pour le côté anecdotique, c'était difficile à réaliser une telle anthologie qui fait quand même 600 pages, je le rappelle.
Eh bien, il n'est pas évident. Le style, enfin le modèle de cette anthologie est conçu par l'éditeur, donc
grande partie introductive.
Pas forcément grande partie introductive, mais partie introductive. Donc l'idée, c'est un choix de texte, publié sous le nom d'un auteur. Des morceaux choisis de lui, qui soient des chapitres entiers ou des séries de chapitres, et qui soient structurés en un livre ayant sa cohérence, comme s'il avait été écrit par lui, avec un chapeau introductif d'une importance variable. Et il n'est pas évident de trouver, à travers une œuvre qui représente une quarantaine de volumes, il n'est pas évident de trouver les chapitres qui vont s'emboîter les uns avec les autres et former un ensemble, un nouvel ensemble, qui ne trahisse absolument pas la pensée de l'auteur, qui en présente la vision la plus complète possible. J'ai beaucoup hésité, beaucoup réfléchi, et je dois dire que je crois que ce qui m'a aidé fondamentalement, c'est que cela fait 40 ans que je vis avec l'œuvre de Jean Fourastier.
Est-ce que vous avez dû sabrer des éléments de sa pensée ou des...
Je n'ai... Alors justement, c'est là, je n'ai rien sabré. Mais c'est là qu'intervient la longue introduction que j'ai consacrée à Jean Fourastier. C'est que dans une telle anthologie, où on ramène 40 livres à un livre, et évidemment, il y a des comment dirais-je, pas des aspects, mais des nuances importantes de sa pensée. Parce que Jean Fourastier a toujours réfléchi sur les mêmes thèmes, finalement. Le progrès technique et ses effets sur la production, sur la société. Et il a toujours parlé de cela. Mais d'un livre à l'autre, il mettait l'accent sur tel ou tel thème, sur tel ou tel autre. Donc il reparle toujours des mêmes choses. Et en choisissant, forcément, je l'ai laissé de côté, des aspects importants de sa pensée qui auraient manqué à la compréhension du lecteur et à l'information du lecteur. D'où la nécessité, m'a-t-il semblé, de procéder à la rédaction de cette introduction où je présente largement l'homme et puis aussi sa pensée économique de manière systématique.
Oui, qui est très intéressante. Vous qui avez enseigné la pensée de Jean Fourastier en tant que professeur et qui avez donc composé cette anthologie, est-ce que vous voyez d'ailleurs une évolution de sa pensée? Est-ce que la pensée de Jean Fourastier en 1945 et celle à sa mort en 1990, c'était à peu près la même?
Alors, c'est une question effectivement essentielle et c'est un des aspects qui suscite chez moi l'admiration la plus complète pour le génie et pour le génie de cet économiste. C'est que, bien sûr que sa pensée a évolué, mais je dirais qu'elle a plutôt évolué sur les aspects éthiques que sur les aspects économiques. Parce que, en vérité, dans le domaine de l'économie, dès 1947, il avait tout dit. En 1947, il compose le manuscrit des Trente Glorieuses. En 1948, il enseigne le contenu des Trente Glorieuses aux Arts et Métiers et à Sciences Po. Et en 1949, il publie les Trente Glorieuses. J'ai dit les Trente Glorieuses. C'est un lapsus. Je voulais dire, pardonnez-moi, je voulais dire évidemment le grand espoir du XXe siècle. Il publie le grand espoir en 49 et en 1949, dans la première édition du grand espoir, il a tout dit. Il a annoncé que le progrès technique était au centre de toute la vie économique. Il a annoncé que la richesse des nations ne pouvait provenir que d'une amélioration de la productivité ou d'une augmentation de la durée du travail. Il a annoncé que la population active allait évoluer de manière significative. Et alors que tout le monde attendait une société industrielle, Jean Fourastier de manière visionnaire, mais pas du tout sur un mode intuitif, car tout cela, ce qui est admirable chez lui, c'est que il ne l'a pas trouvé par le raisonnement, il l'a trouvé par l'observation. Il annonce que rien ne sera moins industriel que la société née de la révolution industrielle. Et il annonce que le secteur agricole va fondre. Mais pas seulement le secteur agricole, que le secteur industriel va fondre. Et il annonce, à l'horizon d'un certain nombre de décennies, 80, il ne sait pas quel chiffre, mais il annonce l'éventualité de 80, 90, 95% de la population active dans le tertiaire.
Et le commissariat au plan, tout dernièrement, a encore repris d'ailleurs ses thèses d'évolution du marché du travail et de la population active, comme ça, d'un transfert du secteur primaire et secondaire vers le secteur tertiaire. Donc c'est quelque chose qui est encore en cours. Est-ce qu'il, pour autant, il y a des choses obsolètes dans la pensée de Jean Fourastier?
Pas à ma connaissance. Alors, ce qu'un lecteur pressé pourra trouver obsolète, c'est le fait que le monde économique et social qu'il décrit, qui est celui des Trente Glorieuses, n'est plus le monde économique et social dans lequel nous vivons. Mais ça, ce n'est pas obsolète, il l'avait annoncé. Dans les Trente Glorieuses en 1979, il dit c'est fini. Il dit c'est fini, c'est terminé, les croissances à 7% par an, c'est terminé. Et alors, vous allez me dire qu'en 1979, il n'était pas nécessaire d'être un économiste prodigieux pour le voir. Ce qui est prodigieux, c'est chez Jean Fourastier, c'est qu'il l'a annoncé dès le départ. Il l'a annoncé dès 1949. Dès 1949, il écrit, vous savez, le monde industrialisé est dans une période de croissance rapide. La France va y rentrer, et il a tout fait pour que la France y rentre, Mais ça ne durera pas éternellement. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle, moi, Jean Fourastier, la période transitoire. Transitoire entre deux, entre quoi? Entre deux grands plateaux de stabilité. Premier plateau de stabilité, une société ancienne, à très bas niveau de vie moyen, et avec une population active agricole immense, de 80% ou plus. Le plateau ultérieur, une société à très haut niveau de vie moyen et avec une population active tertiaire à 80, 90, 95%. Alors ça, il l'annonce en 1947-49. Et en 1961, il écrit dans des articles d'abord et ensuite dans des ouvrages que ça ne peut pas durer pour des raisons mathématiques, pour des raisons physiques. Parce que 2 à la puissance 10 égale 1024. Or, 2 à la puissance 10, ça veut dire que tous les 7 ans, on double la production et on ne peut pas, évidemment, on tombe dans l'absurde. Définiment. Donc la période transitoire va se terminer. Et quand arrive le choc pétrolier de 1973, il fait un article dans le Figaro en disant « c'est fini, c'est la fin des temps faciles ». C'est la fin des temps faciles, les grands chiffres de croissance sont terminés. Et alors, évidemment, il n'a pas connu les 30 glorieuses de la Chine que nous connaissons nous, mais il les a annoncées. Il a dit « un jour la Chine, bientôt la Chine ».
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles, historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent, retrouvez-les dans « Un jour dans l'histoire », une émission de la rédaction de Canal Académie.
Nous sommes en compagnie de Jean-Louis Harwell, auteur d'une anthologie des œuvres de Jean Fourastier. Nous parlions un instant de l'actualité de la pensée de Jean Fourastier. Vous parliez du fait qu'il avait prévu un ralentissement de la croissance. Est-ce que pour autant il avait prévu un chômage de masse, qui est quand même l'élément économique qui perturbe le plus l'économie aujourd'hui?
Il avait annoncé le caractère inévitable du chômage qui résultait. Et ça, c'est dès le Grand Espoir, dès 47-49, il avait annoncé que le chômage était inévitable parce que, du fait du progrès technique, il y avait sans arrêt des transferts de population active d'une activité qui n'était plus rentable vers une autre activité, donc du primaire vers le secondaire et vers le tertiaire. Et avant que tout le monde ne se retrouve dans le tertiaire, évidemment, il y avait des phases nécessaires de chômage et des périodes douloureuses. Fourastier est extrêmement humain. C'est-à-dire qu'il n'oublie jamais le facteur humain dans son raisonnement d'économiste. Son raisonnement d'économiste est d'abord expérimental et inexorable, car il dit « seuls les faits comptent, on ne peut rien contre les faits ». Mais à côté de cela, le facteur humain compte énormément. Et il disait qu'il y aurait indiscutablement un chômage douloureux, parce que il n'était pas évident pour l'individu dont l'emploi est supprimé dans le secteur primaire de se reconvertir dans le secondaire et a fortiori dans le tertiaire, dans les emplois où on a besoin de main d'œuvre. Donc, alors ça, il l'avait annoncé. Ensuite.
Mais le chômage n'est pas seulement dû à ce transfert entre les différents secteurs, il y a aussi...
Non mais c'est, si vous voulez, dans son schéma primitif et dans l'observation qu'il a faite de la société, de l'économie et de la société au milieu du siècle, c'était sa vision. Il expliquait que ce chômage résultait du progrès technique. Bon, du progrès technique dans un seul pays. Ensuite, avec le développement, il en parle déjà dans les 30 Glorieuses en 1979, et puis il en parle dans tous ses livres entre 1979 et sa disparition en 1990, avec juste avant sa disparition la dernière édition du Grand Espoir du XXe siècle avec une postface. Et là, il voit bien que le problème que les économies émergentes des pays qu'on appelait autrefois le tiers-monde, dans la mesure où, par des transferts de technologie, elles bénéficient d'une productivité concurrentielle avec celle des économies occidentales, entraînait forcément la disparition de secteurs entiers. Ça, il le voit très bien.
Donc il a prévu les délocalisations, en quelque sorte.
Oui, il les a vus à leur commencement. Il disait également que le chômage, parce qu'il a quand même été le responsable de l'emploi pour la France pendant 20 ans au commissariat au plan, au temps des Trente Glorieuses, de 1951 à 1967. Donc il n'a pas seulement une vue d'économiste, il a aussi une vue d'homme qui est profondément engagé dans la réalité économique la plus concrète de son époque. Et il a toujours pensé que, alors évidemment, sans faire intervenir le problème de la délocalisation et de la concurrence extérieure. Il a toujours pensé que dans une économie donnée, l'abaissement du temps de travail permettait de résorber le chômage. Mais il a toujours insisté sur le fait qu'il fallait, pour qu'une réduction du temps de travail permette de combattre efficacement le chômage, il fallait premièrement que ce ne soit pas une mesure générale et imposée. Que ce soit un abaissement souple, qui se fasse en fonction des besoins et des capacités de chaque branche économique, et qu'il fallait surtout que cela se fît avec baisse proportionnelle de la rémunération. Et c'est, si vous voulez, la réduction du temps de travail n'a pas obéi à ces lois. Jean Fourassy explique en fait que la réduction du temps de travail, et ça il l'explique très tôt, n'est pas du tout, comme on aurait tendance à le penser en France de manière archaïque, une conquête des salariés sur les employeurs. Il explique que c'est tout simplement, de la part des salariés, une option entre niveau de vie et genre de vie. On travaille moins, on gagne moins. Mais, et en même temps, on a un genre de vie plus agréable. Donc l'idée d'une option entre niveau de vie et genre de vie, c'est une remarque fondamentale qu'il a faite très tôt et qui est maintenant rejointe par tous les économistes.
Il y a un élément sur lequel peut-être Jean Fourastier serait en décalage avec certains économistes ou un certain courant de pensée actuel, celui qui prône la non-croissance ou plutôt la décroissance, en particulier justement dans les pays en voie de développement, de ne pas imposer ou de ne pas suggérer à ces pays-là d'avoir le même style de développement que celui qu'on a connu dans la pensée occidentale. Est-ce que Monsieur Fourastier aurait pu souscrire à ce type de thèse ou est-ce que c'était très différent de sa pensée?
Écoutez, Jean Fourassier, justement, il peut souscrire. Sa pensée, alors c'est très intéressant aussi la question que vous posez, et j'ai rencontré ce problème en faisant cette anthologie. Jean Fourassier écrit très clairement, il dit, nous sommes l'homme moderne actuel, l'homme des Trente Glorieuses, est riche. Mais ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il est heureux. Simplement, il faut savoir ce que l'on veut. Alors, il dit qu'il a vécu dans son enfance au milieu d'une paysannerie misérable, avec des taux de mortalité extrêmement élevés, des gens qui vivaient des vies dures, effroyables, qui vivaient dans l'inconfort, qui vivaient dans la souffrance. Et il dit, ces gens-là, qui travaillaient de l'étoile du matin à l'étoile du soir, qui couchaient sur des grabats, qui n'étaient jamais chauffés, qui n'avaient aucun des conforts minimaux du monde moderne, ces gens-là étaient gais et heureux. Mais évidemment, ils avaient des niveaux de vie misérables. Et ils avaient un genre de vie extrêmement archaïque et extrêmement dur. Et il dit, c'est vrai que ces gens-là chantaient et ils étaient heureux, ils étaient gais. Alors que l'homme des années 60-70 que je rencontre est amer, mécontent, désabusé, il trouve qu'il n'en a jamais assez. Et il dit, voilà, il faut choisir. Alors simplement, il dit, si on veut augmenter les niveaux de vie, il n'y a qu'une seule façon. Si on décide que le sous-développement est une bonne chose, et qu'il est bon et nécessaire d'être heureux en ayant une moyenne de vie de 30 ans, en ayant une mortalité infantile de 500 pour 1000, c'est vrai, on est heureux, on est plus heureux, mais il faut savoir ce qu'on veut. Si on décide de maintenir une partie du monde dans le sous-développement au nom de son bonheur, eh bien, qu'on le fasse. Ou plutôt que cette partie du monde, si elle veut rester dans la misère pour être heureuse, qu'elle le fasse. Mais je crois que les économistes dont vous parlez sont démentis par tous ceux qui votent avec leurs pieds et qui quittent les pays de misère pour venir dans les pays à productivité élevée où on est moins heureux.
C'est facile de dire à des pays de voie de développement de leur dire ce qui est le mieux pour eux, c'est à eux de choisir évidemment. Par rapport, c'est lié d'ailleurs, par rapport à la pensée écologique, on sait que Jean Fourastier est né dans un milieu rural et la pensée écologique est très liée à la pensée économique, enfin, elle le devient de plus en plus actuellement. Est-ce que Monsieur Fourastier aussi serait devenu un écologiste si...
Il a été, à ma connaissance, évidemment, Jacqueline Fourastier peut-être vous en a déjà parlé sur cette antenne, à ma connaissance, Jean Fourastier a été extraordinairement écologique. Jean Fourastier aimait son Quercy, il aimait ses causes du Lot, Et il a été plus qu'un écologiste, il a été un vrai agriculteur. Quand son père était mobilisé pendant la guerre de 14, de 1914-1918, qu'il était réfugié avec sa maman à Douel dans le Lot, dans un village où on vivait comme du temps de Virgile, ou à peu près, son grand-père était mort. Sa grand-mère était à la tête de la petite exploitation familiale. Et Jean Fourastier écrit « J'ai été à 11 ans un aîné de famille. Celui qui à 11 ans va au champ avec les mancherons de la charrue et la naisse. » Et donc il a connu ça, il a connu ce monde où sa grand-mère, les dimanches, pour le récompenser, lui donnait un verre de l'eau du puits avec un morceau de sucre. Et il a connu cette réalité et il écrit dans un de ses livres « Mon cœur n'est ni chez Renault, ni chez Citroën, mon cœur est sur les Causses, mon cœur est au musée de l'Ermitage. » Mais, enfin bon, il s'agit de l'économie. Donc, quand il faisait de l'économie, il était économiste. Maintenant, ses préférences, je dirais, spirituelles, ses préférences esthétiques, allaient évidemment du côté de la beauté du monde ancien.
Mais il n'a pas lié les deux espèces à sa personnalité. Alors qu'aujourd'hui, on parle quand même beaucoup de productivité industrielle. On s'interroge sur la productivité industrielle de façon écologique. Bon, ça commence, du moins.
Non, mais c'était tout à fait dans l'esprit de ce qu'il a écrit. C'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'il a écrit. Pour lui, le monde ancien est un lait merveilleux. Il est conscient que celui qui quitte son cause pour devenir ouvrier et employé dans une banlieue du Nord, quitte une vie qui est belle pour une vie qui est laide. Mais d'un autre côté, il constate qu'il le fait quand même. Il le fait quand même parce que s'il était resté sur son cause, il serait mort de faim. Et il n'aurait pas eu d'enfants. Il n'aurait pas pu les élever.
Monsieur Harwell, un des thèmes de prédilection de Jean Fourastier, dont vous avez sorti une anthologie tout dernièrement, c'était le thème de l'inégalité. Et d'ailleurs, vous-même, vous avez travaillé sur ce sujet, puisque vous avez publié un essai sur l'inégalité aux éditions PUF en 1984. Qu'est-ce qui rapproche vos deux thèses?
Eh bien, je dirais que ce qui rapproche mes deux thèses, en vérité, j'ai été convaincu par la thèse de Jean Fourastier. Et je me suis efforcé de l'appliquer dans ce livre à différents aspects de l'histoire humaine et notamment au domaine culturel. Mais enfin bon, ça c'est mon travail. Pour revenir à Jean Fourastier, ce que Jean Fourastier démontre, c'est que le progrès technique a entraîné une spectaculaire réduction des inégalités en même temps qu'il augmentait le revenu moyen dans les sociétés où il était à l'œuvre. Pour la France, par exemple, il donne les chiffres suivants. Entre le début du 19e siècle et 1980, le revenu moyen par tête a été multiplié par un chiffre de l'ordre de 12. Et en même temps que cette élévation du niveau de vie moyen intervenait, eh bien, il y avait un resserrement des revenus autour du revenu moyen. C'est-à-dire qu'au début du 19e siècle, il y avait 90% de la population qui avait une moyenne de revenus de 60% du revenu moyen et 10% de la population qui avait un revenu moyen 5 fois plus élevé que le revenu moyen par tête. Alors que en 1980, il y avait et 60% de la population qui avait un revenu moyen de 0,6 fois le revenu moyen, mais 40% de la population qui était au-dessus du revenu moyen et qui avait en moyenne 1,6 fois le revenu moyen. Alors, ça reste un peu abstrait, et je vais l'illustrer par un exemple cher à Jean Fourastier. Au début du 19e siècle, la rémunération d'un conseiller d'État était de 115 fois la rémunération d'une femme de ménage qui travaillait dans ses bureaux. En 1980, le revenu salarial disponible du conseiller d'État et de la femme de ménage était dans un rapport de 1 à 3,75. Autre chiffre qui va dans le même sens, le conseiller d'État, au début du 19e siècle, gagnait 55 fois le revenu moyen. En 1980, il gagnait 3 fois le revenu moyen.
Donc les inégalités se creusent par le progrès technique et la croissance et non pas par une volonté politique d'en haut.
C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai et Jean Fourastier l'a démontré très tôt par un exemple qu'il appelle le paradoxe du Maharaja. Il se place à l'époque où l'Inde était encore un pays pauvre Et il dit, supposons que l'on confisque, par une décision politique, les immenses revenus d'un prince de l'Inde. Et qu'on répartisse toute cette fortune entre les habitants de sa principauté. Alors, que se passera-t-il, explique Fourastier? Eh bien, le revenu nominal de chaque habitant sera multiplié par deux. Mais comme la production de riz n'aura pas augmenté, le niveau de vie effectif sera exactement le même, simplement le prix du riz aura été multiplié par deux. Donc, il démontre que les redistributions égalisatrices, que les égalisations volontaristes sont dans une très large mesure inefficaces. Et que la seule façon d'augmenter un niveau de vie moyen, c'est d'augmenter la production dans un pays donné. Alors la production peut être augmentée un tout petit peu par des heures de travail plus nombreuses et significativement par des progrès de productivité.
Est-ce que pour autant M. Fourastier était opposé au SMIC ?
Jean Fourastier était un homme extrêmement bienveillant, mesuré dans ses jugements, et il n'était certainement pas opposé au principe d'un SMIC. Je ne voudrais pas trahir sa pensée, mais ce qu'il écrit simplement, c'est que les politiques égalisatrices en France, 80, sont certainement excessives au regard des nécessités de la compétitivité de l'économie française. C'est plutôt un regard général qu'il a sur le fait que les politiques de réduction des inégalités aboutissent bien souvent à des résultats inverses que ceux que l'on souhaite. Et c'est vérifié, si vous voulez, quand on compare actuellement le modèle français ou le modèle allemand au modèle anglais ou au modèle américain.
Oui, mais le fait que les inégalités soient réduites et donc valables dans une période d'augmentation de la productivité et donc de croissance, qu'en est-il dans les périodes de ralentissement de la croissance?
Eh bien, alors attendez, il y a toujours augmentation de la productivité. La productivité ne cesse d'augmenter. C'est la croissance qui n'augmente pas. Nous sommes toujours en période d'augmentation de la productivité. Mais Jean Fourastier écrit dans les années 80 qu'au fond, la véritable inégalité, c'est le chômage. Et que c'est celle-là que les politiques de réduction des inégalités n'arrangent pas, ne résolvent pas.
Et c'est en quoi Jean Fourastier, effectivement, est très moderne. Merci infiniment, Monsieur Harwell, d'être venu dans ce studio pour commenter la pensée de Jean Fourastier, que vous avez résumée en 600 pages, dans une anthologie qui est sortie chez Gallimard, qui s'intitule « Productivité et richesse des nations », un livre donc que vous pouvez trouver dans toutes les librairies. Je vous remercie, Monsieur Harwell, d'être venu.
Merci à vous.